9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Je reçois ce matin Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP pour La Fracture, une grande enquête d'opinion chez les 18-30 ans qui éclaire la jeunesse actuelle d'un jour tout à fait nouveau. Il y aura également Jean-Marie Guéhenneau, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui publie Le premier 21e siècle, un livre étape qui fait le bilan des 20 premières années du siècle et nous donne des clés pour mieux comprendre notre époque. Mais d'abord, on va revenir sur la mise en examen d'Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui. L'ancienne ministre de la Santé est la première à être inquiétée par la justice, mais peut-être pas la dernière. On va voir toutes les questions que cela pose avec Bertrand Merz.
Europe 1.
Bonjour Bertrand Merz.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes avocat, spécialisé notamment dans la responsabilité médicale, ancien maire de Thionville. Vous êtes l'auteur du livre « Les réseaux sociaux contre la démocratie » chez Edilivre. Vous avez engagé en 2020 une procédure devant la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Olivier Véran pour abstention de combattre un sinistre. Vous représentez un habitant de la Moselle qui a été victime du Covid-19 au tout début de la pandémie et que l'hôpital public a mis trop longtemps à accepter de prendre en charge. Il a failli mourir. La Cour de justice de la République a jugé la plainte recevable. Elle est en cours d'instruction. Sur les 18 400 plaintes liées au Covid, 16 200 ont déjà été classées. 9 seulement pour l'instant ont débouché sur une information judiciaire. C'est le cas de la vôtre. Pourquoi, à votre avis, celle-ci ?
Je pense qu'elle était bien argumentée, bien charpentée, puis surtout que les faits qui étaient visés dans cette plainte étaient sérieux. Je crois savoir que de nombreuses plaintes, des milliers de plaintes ont été adressées sous la forme d'un formulaire qui a été mis en ligne par un de mes confrères. Alors évidemment, saisir une juridiction aussi éminente en dirigeant des plaintes contre des ministres sous la forme d'un formulaire, ça peut être problématique. La plainte que j'ai déposée faisait 20 pages, elle était structurée, argumentée, en droit, en fait, avec de nombreuses pièces. Elle visait également de nombreux articles de presse, et donc je pense que la Cour de justice a estimé qu'elle était sérieuse et qu'elle pouvait faire l'objet d'une instruction.
Hervé Léman, qui lui aussi est avocat et qui est opposé à ces procès que l'on veut faire aux responsables de la gestion de la crise sanitaire, a dit dans le Figaro Vox cette semaine qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une victime, on veut un coupable. Mais il y a des victimes sans coupable, et c'est le cas dans les pandémies.
Oui, évidemment, on peut dire cela, mais c'est aussi le droit de chaque citoyen qui s'estime victime d'une infraction pénale de demander à la justice de vérifier si cette infraction est bien constituée, et puis le cas échéant, de lui donner des suites, les suites pénales qu'elle appelle. Donc ce sont des déclarations de principe, tout cela. Il faut être dans le concret dans cette affaire. C'est un homme qui a souffert, gravement, qui souffre toujours d'ailleurs.
Vous parlez de votre client, là. Hein.
Bien entendu, oui. Et donc, c'est son droit d'avoir recours à la justice. Il l'a fait sous la forme d'une plainte entre les mains du procureur de la République contre le CHR, contre le SAMU Centre 15 et contre la Direction Générale de la Santé Publique. Et puis, il a estimé qu'il fallait également demander aux responsables ministériels qu'elle avait pu être leur rôle dans cette affaire. Et donc, il a également déposé plainte contre eux. Et c'est la stricte application de la loi et des textes.
Mais pour lutter contre la pandémie, Bertrand Merz, les ministres ont fait des choix en fonction de l'état de nos connaissances sur le virus. Certains disent qu'ils ne devraient pas être inquiétés sur le plan pénal. Il en va de la séparation des pouvoirs. Les juges n'ont pas à se prononcer sur l'action politique.
Mais il ne s'agit pas de se prononcer sur l'action politique, bien évidemment. Hein, la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1789 fait interdiction aux juges de s'immiscer dans l'action du gouvernement. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vérifier si, à l'intérieur d'une politique publique, une politique de santé publique, celle qui a été mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie, si à l'intérieur de cette politique publique, il y a eu des infractions pénales. Et donc le juge pénal ne vient pas porter une appréciation sur la politique publique dans son ensemble. Il vient simplement vérifier si à l'occasion de la mise en œuvre de cette politique publique, une ou plusieurs infractions pénales ont pu être commises.
Là, il y a Agnès Buzyn est déjà mise en examen. Demain, ça pourrait être le cas d'Olivier Véran ou d'Édouard Philippe. Ils n'ont fait qu'exécuter des décisions prises par le président de la République. Or, aucune action ne peut être engagée contre lui pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Ni maintenant, ni après son mandat. C'est l'article l'article 67 de la Constitution. Est-ce que ça ne vous paraît pas injuste ?
Mais vous savez, on est en matière pénale. Donc, en matière pénale, il faut un lien de causalité direct. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté au niveau des deux ministres et pourquoi je ne suis pas remonté au niveau du Premier ministre dans la plainte que j'ai déposée ? Car j'aurais pu. Effectivement, le Président de la République, lui, il a une immunité totale. Mais ça n'est pas le cas du Premier ministre. Pourtant, je me suis arrêté au niveau ministériel parce que quand j'ai examiné le dossier, je n'ai pas vu d'éléments qui me permettaient de rattacher les infractions que j'estimais constituées à l'action du Premier ministre. Et ce que j'ai relevé, c'est que, par exemple, le 20 février 2020, un guide préparatoire au risque épidémique Covid-19 a été adressé aux hôpitaux de France. Et puis chaque jour, les hôpitaux recevaient des messages d'alerte rapide sanitaire, des MARS, qui étaient adressés par le ministère de la Santé. Donc moi, j'en suis resté au ministère de la Santé. Je ne tape pas à l'aveugle, si je puis dire. J'ai des éléments objectifs qui me font penser que le pilotage l'action contre l'épidémie a été faite par le ministère de la Santé, donc je m'en suis tenu au ministère de la Santé.
Bertrand Merz, les juges de la Cour de justice de la République vont devoir démontrer que l'on aurait pu faire autrement, que l'on aurait pu faire mieux pour qu'il y ait moins de morts. Mais sur le Covid, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, ni celles de demain. Ça risque de changer encore. On est toujours dans cette pandémie. Est-ce que tout ça ne vient pas trop tôt ?
Mais vous savez, tout ça, ce sont des déclarations générales. Il faut être au plus près, hein, quand même, du dossier et comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, à l'occasion de cette épidémie, le Sénat a auditionné les acteurs de la lutte contre l'épidémie et notamment le directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Et il a déclaré au Sénat ceci. Le mode de pilotage du niveau central a conduit à des retards dans la prise de décision et à une incapacité à prendre en compte les spécificités de la situation de la région Grand Est. Donc vous voyez que là vous avez un responsable de la santé publique éminent, important, le directeur de l'ARS qui vient dire la manière dont on nous a demandé de conduire la lutte contre l'épidémie a posé problème et nous n'avons pas pu agir comme nous aurions voulu agir. Et donc, il suffit pas de faire des déclarations générales, il faut essayer de comprendre concrètement ce qui s'est passé. Et c'est le rôle de la commission d'instruction, pour ce qui concerne l'échelon ministériel, de vérifier si les choses ont été faites sans que, pour autant, elles ne constituent des infractions pénales, puisque nous estimons qu'il y a une infraction pénale. Et le parquet conduit la même enquête à l'échelon local, si je puis dire, ou régional, en direction du CHR, du SAMU Centre 15.
On fait une pause, Bertrand Merz. On se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Bertrand Merz, qui est l'un des avocats ayant déposé une plainte devant la Cour de justice de la République, qui a été jugée recevable. Elle est en cours d'instruction. Alors, elle concerne Agnès Buzyn et Olivier Véran. Une autre a été acceptée plus tôt, qui fait que aujourd'hui Agnès Buzyn est d'ores et déjà mise en examen. Bertrand Merz, si l'on confond responsabilité politique et responsabilité pénale, ceux qui nous gouvernent ne risquent-ils pas de refuser de prendre le moindre risque? Non seulement lors de la prochaine pandémie, ils vont nous enfermer chez nous pendant un an, mais ils vont limiter la vitesse sur autoroute à 30 km/h pour qu'il n'y ait plus de morts. Ils vont interdire les piscines de crainte que les enfants s'y noient. Est-ce que ça n'est pas sans fin?
Mais non, parce qu'on ne confond pas la responsabilité politique et la responsabilité pénale. Il faut qu'il y ait un lien direct entre l'action conduite par le ministre, par exemple, et puis le préjudice occasionné à une éventuelle victime d'une infraction pénale. Donc non, la politique publique n'est pas pénalisable dans son ensemble. Ce sont des faits précis à l'intérieur d'une politique publique qui peuvent donner lieu à une infraction pénale. Et il est normal qu'un ministre n'échappe pas, comme n'importe quel citoyen, à des poursuites pénales si jamais il a commis une infraction.
En effet, vous avez raison de le rappeler, la question, ça n'est pas tellement est-ce qu'ils ont bien fait ou est-ce qu'ils ont mal fait, hein, Agnès Buzyn par exemple, mais est-ce qu'ils ont commis une faute qui soit pénalement répréhensible? Mais pour qu'il y ait mise en danger de la vie d'autrui, il faut qu'une obligation particulière de prudence ou de sécurité n'ait pas été respectée. Oui. Est-ce que c'est le cas?
Alors oui, dans le cas de mon dossier, c'est le cas. Mais moi, je n'avais pas retenu cette infraction, je vais vous dire pourquoi. Mais en tout état de cause, puisque la Cour de justice a retenu cette infraction, oui, il y a bien un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou par le règlement. En l'espèce, il s'agit du Code de la santé publique et à l'intérieur du Code de la santé publique, du Code de déontologie médicale qui oblige les médecins à soigner les gens quand ils viennent dire « je suis malade, soignez-moi ». Or, en l'espèce, le problème problème, c'est que mon client s'est présenté plusieurs fois, enfin, il s'est présenté une fois à l'accueil des urgences. Il a téléphoné maintes et maintes fois au SAMU Centre 15 en disant « j'ai 42 de fièvre, je suis malade, venez me chercher ». On a refusé de le prendre en charge.
Il faut se souvenir qu'à l'époque, on disait qu'on ne pouvait pas soigner les malades et qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux et qu'ils prennent du Doliprane.
Voilà, et c'est là qu'est le fond de l'affaire. Alors, moi, pourquoi je n'ai pas retenu cette infraction? Parce que le texte parle du fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure. Or, c'est le directement, moi, qui m'a posé problème, parce que je ne voyais pas comment je pouvais démontrer directement le lien entre l'action du ministre et puis les conséquences préjudiciables pour mon client. Bon, il faut croire que la commission d'instruction, notamment à l'occasion des perquisitions qu'elle a conduites, a trouvé des éléments intéressants qui l'ont conduite à procéder de cette façon. Bon, mais je vous le disais tout à l'heure, chaque jour, les hôpitaux recevaient des directives très très précises. Et ce que j'ai également trouvé dans l'enquête que j'ai faite, parce que j'ai enquêté, si je puis dire, par moi-même, c'est que à partir du mois de mars 2020, est mis en place une réunion quotidienne d'une heure environ, qui est organisée chaque jour aux environs de 20 heures, qui associe le directeur général de la santé, les responsables des centres de crise sanitaire et l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Et ce que dit le directeur général de l'agence régionale de santé Grand Est, c'est que tout cela s'est fait de manière insuffisamment organisée, sans véritable préparation et notamment sans ordre du jour ni compte-rendu formel, de façon à permettre un minimum de suivi des décisions. Donc c'est le directeur de l'ARS lui-même qui dit, mais pardonnez-moi l'expression, mais c'était le bazar. Et donc, cette désorganisation qui est le résultat de l'action des ministres, de la manière dont ils ont conduit leur politique directement, quotidiennement, en direction des hôpitaux, eh bien, elle peut être à l'origine de ce refus de prise en charge. Et je me souviens qu'au début de l'épidémie, on disait aux gens, si vous êtes malade, restez chez vous, prenez du Doliprane. Mais quand on a 42 de fièvre, comme c'était le cas de M. Zamboni, qu'on vomit, qu'on a de la diarrhée, on attend un peu plus que du Doliprane. Et depuis quand, dans notre pays, refuse-t-on de soigner les gens quand ils sont sérieusement malades et qu'ils appellent à l'aide? C'est la question que je pose. Et c'est la question que pose la plainte que j'ai déposée.
Il y a eu beaucoup de déclarations intempestives. On a déclaré les masques inutiles avant de les rendre obligatoires, y compris à l'extérieur, alors que les cas de contamination à l'extérieur étaient quasiment, en tout cas semblent quasiment inexistants. On sait qu'il y a eu beaucoup d'ignorance, beaucoup d'arrogance parfois, beaucoup de bureaucratie, mais j'ai l'impression qu'au fond c'est la question de la vérité qui se pose, un peu comme dans votre livre « Les réseaux sociaux contre la démocratie ».
Oui, je pense que la question de la vérité et du mensonge est une question aujourd'hui qui est cruciale pour notre démocratie. Un de mes confrères, mon excellent confrère Jakubowicz, sur une chaîne télévision, il y a peu de temps, a dit que les élus, les politiques ont le droit de mentir. Moi, je suis très surpris d'une telle déclaration et moi, elle me choque. Je crois que si, évidemment, dans la vie privée, on peut tous être amené à mentir, ne serait-ce que par politesse, dans la vie publique, à chaque fois qu'un responsable public ment et que son mensonge est dévoilé, à chaque fois, c'est un peu de la confiance de nos concitoyens dans les institutions démocratiques qui est entamée. Et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite de la désertion des bureaux de vote par nos concitoyens. Il n'est pas possible de considérer que le mensonge est une méthode de gouvernement. Et donc, au final, probablement, une des grandes questions qui est posée par cette crise épidémique, une des grandes questions politiques, c'est celle de la vérité et du mensonge dans la conduite des affaires publiques. Oui, je le pense.
Mais il peut s'agir d'un mensonge qui n'a pas été élaboré sciemment, d'un mensonge qui trompe, y compris ceux-là même qu'il profère.
Eh bien, alors d'abord, le mensonge en lui n'est pas constitutif d'une infraction. Il peut être simplement un des éléments de l'infraction. Alors, est-ce qu'on peut être dupe de ses propres mensonges? Oui, c'est possible. Mais en tous les cas, il va falloir le vérifier. Et je pense que, en la matière, ça n'est pas possible. Je pense que, et d'ailleurs, Madame Buzyn, malheureusement pour elle, a fait des déclarations dans les médias qui étaient assez surprenantes de la part d'un ministre. Enfin, vous les connaissez, tout le monde les a en tête. Et qui tendent plutôt à montrer qu'elle savait davantage que ce qu'elle a bien voulu dire, et que probablement la manière dont les choses ont été décidées, alors vous évoquiez la question des masques, mais il y en a d'autres, tout cela a été fait en connaissance de cause et malheureusement au préjudice de beaucoup de malades.
Merci Bertrand Merz, un sujet dont on reparlera, puisque seule Agnès Buzyn pour l'instant a été mise en examen, mais il se pourrait très bien qu'il y en ait d'autres. Et forcément, un certain nombre de questions vont rebondir au cours des semaines et des mois qui viennent. Merci d'avoir été sur Europe 1 avec
Merci
nous. On se retrouve juste après une pause avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP. On va parler de la fracture entre notre jeunesse et le reste de la société.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Dabi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, fondé en 1938. C'est le premier institut de sondage né en France. Et vous venez de publier La Fracture aux éditions Les Arènes avec Stuart Shaw. Une grande enquête d'opinion chez les 18-30 ans. La première enquête de ce type était sortie en 1957, la dernière en 1999. Et le résultat annoncé sur la couverture, c'est que la jeunesse fait sécession. Alors sur quoi d'abord? Et est-ce que ce n'est pas le principe, toute jeunesse ne fait-elle pas sécession? Est-ce que ça n'était pas déjà le cas en 57 quand on l'a baptisé la nouvelle vague?
Oui, c'est vrai qu'en 57, quand Françoise Giroud crée ce concept de nouvelle vague, elle n'est pas en sécession, mais elle est en décalage avec les autres générations. Là, le terme sécession est fort, mais il y a une véritable fracture qu'on voit surtout sur les questions de société, sur les questions sociétales, où il y a vraiment des décalages de perception béants entre l'ensemble des Français et les plus jeunes. Les jeunes font pour la part. Il n'y a pas une lutte des générations, mais chacun a sa manière de voir les choses qui est extrêmement différente. Les jeunes considèrent que la société est fondamentalement injuste, qu'elle produit des inégalités, qu'elle produit des discriminations systémiques. Le grand public n'est pas complètement sur cette vision-là.
Mais elle donne plus d'importance à l'égalité qu'à la liberté. Hein.
Oui, là, c'est une rupture, c'est une fracture par rapport aux jeunesses passées, où les jeunesses des années 70, des années 80 mettaient au-dessus de tout la liberté. Là, plus que jamais, cette jeunesse, et un peu le grand public, de ce point de vue-là, la jeunesse a été influenceuse, met en avant le principe d'égalité et va chercher, détecter tout ce qui est inégalité, tout ce qui est discrimination sur toute une série de choses pour les minorités ethniques, religieuses ou sexuelles.
Oui, les genres, les religions, les croyances, les sexes, elle est très sensible aux injustices. Au fond, elle est sensible aux minorités, peut-être parce que la jeunesse elle-même est aujourd'hui une minorité.
Vous avez raison. Il y a 5 millions de jeunes âgés de 18 à 24 ans, 8 millions un peu moins âgés de 18 à 30 ans, ça pèse très peu. Là, si je me place d'un point de vue électoral par rapport aux 50 ans et plus qui sont plus de 25 millions des Français, alors que les politiques, vous l'avez vu dans le livre, parlent beaucoup à la jeunesse, surinvestissent le segment jeune. Ils sont très attachés à la notion de respect qui s'attache aux minorités, de ne pas les offenser, c'est sa génération offensée, cette génération indignée. Ça se voit sur le fait religieux, et là vraiment, c'est là qu'il y a une fracture très forte avec l'ensemble des Français. Ce qui m'a donné envie, moi, de faire ce livre, c'est un chiffre d'une enquête IFOP pour Marianne de novembre 2020, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Un tiers des jeunes considéraient que Samuel Paty avait eu tort de montrer des caricatures car elles offensaient les personnes croyantes, les personnes de confession musulmane. Il y a dans cette jeunesse une difficulté à opérer une distinction entre le droit au blasphème. On peut se moquer d'un principe, d'un dogme religieux. On ne peut pas, au contraire, discriminer, se montrer raciste vis-à-vis d'une communauté ou d'un groupe. Là, cette distinction que font parfaitement les adultes, c'est notre tradition française, les caricatures, les moqueries, ces jeunes la font de moins en moins car il y a cette notion de respect et de ne pas offenser ceux qui croient ou ne croient pas.
Frédéric Dabi, cette génération est plus que jamais défiante envers le personnel politique. Elle est surtout tentée par la radicalisation. Alors là aussi, est-ce que ça n'est pas le propre de toutes les jeunesses? Elle doute du modèle démocratique, ça c'est nouveau. Et elle se dit anti-État, pro-entreprise.
Oui, ça c'est relativement nouveau. Il y a eu un effet Covid. Le Covid n'a rien créé de particulier, mais par cet événement absolument inouï, hors norme, qui a touché de plein fouet les jeunes, même s'ils sont montrés très résilients, a amplifié des tendances à l'œuvre. Vous le disiez, doute sur la démocratie, et c'est pas la démocratie pour la démocratie. Ils sont très attachés au principe démocratique, mais c'est le principe de représentativité, de délégation de son pouvoir avec. Ils sont, disons, dans une logique d'action individuelle, puisque le collectif les déçoit. Et dans ce cadre-là, qui mieux que moi pour porter mes intérêts, pour porter mes revendications? Ça se voit de manière massive sur la question environnementale. Et c'est vrai, vous le disiez, défiance jamais vue vis-à-vis du personnel politique. Mais ce n'est pas une défiance, je dirais, automatique. Ce n'est pas un discours classique, parfois très caricatural, tous pourris, tous malhonnêtes. C'est plutôt tous impuissants. Tous impuissants à résoudre les problèmes, à faire avancer les choses. Les jeunes ont une vision pure du rapport aux politiques. Ils croient en la promesse du politique, qui est vraiment un ciment en France, c'est-à-dire transformer le quotidien, peser sur le cours des choses, comme l'avait dit François Mitterrand, changer la vie. Ils voient des problèmes très graves à leurs yeux, voire catastrophiques. Ils ont un sentiment d'urgence sur la question environnementale, climatique. Et en face, ils ont le sentiment que les choses n'avancent pas, d'où cette tentation de la radicalité. Il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé, pour ne pas dire tombé de ma chaise, c'est qu'une majorité de jeunes considèrent que seule la violence peut permettre de faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils se montrent violents, loin de là, mais ils ont compris que de moins en moins, et pour eux, la réponse, la solution procédera de la sphère politique, d'où l'envie aussi de se tourner vers avant ce qui était un véritable objet repoussoir dans la jeunesse des années 80, par exemple, l'entreprise.
Alors, ils veulent des résultats, hein, on voit bien, ils veulent de l'efficacité, ils veulent un chef, ça c'est assez intéressant. 34% pensent que l'armée peut diriger le pays, le Parlement, les élections, ils s'en fichent. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est peut-être l'influence de la Chine.
Ah, je ne sais pas si c'est de l'influence chinoise, mais c'est vrai que c'était pas, faut pas prendre la question auprès de la lettre. Si la question avait été une question de préférence entre différents systèmes, ils auraient choisi sans doute le système démocratique. Mais comme vous le disiez, Frédéric, au nom de cette efficacité, l'idée que les choses doivent avancer, l'idée d'avoir un chef, même s'il n'est pas élu, peut séduire. D'ailleurs, dans une partie de la jeunesse, je fais une comparaison qu'il faut prendre avec prudence, j'ai 18-24 ans, il y a un vrai effet Emmanuel Macron. Je parle dans le livre d'un effet Manu. C'est-à-dire, il donne l'impression de vouloir faire bouger les choses, il nous ressemble, ça crée de la proximité identificatoire, il s'adresse aux jeunes sur leurs propres canaux, même s'il y a un côté parfois qui relève d'un certain artifice, et lui est sur une logique de sens, de résultats. Ce n'est pas du tout, s'agissant d'Emmanuel Macron, le regard des 25-30 ans, beaucoup plus sévère et beaucoup plus critique.
Alors on sait que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quasiment devenu une lutte générationnelle. Hein. Cette jeunesse s'engage en faveur du climat. Est-ce qu'elle a peur de la fin du monde ?
Elle a compris la phrase, elle fait sienne plutôt la phrase de Paul Valéry, hein, nous sommes civilisation, savons que nous sommes mortels. Ils ont compris que c'est un enjeu urgent, et ils voient face à cela l'idée que c'est un enjeu qui est pensé par les politiques comme à venir, à traiter. Il y a une sorte de procrastination qu'ils ne supportent plus. Alors, dans ce cadre-là, ils s'engagent très fortement dans une action d'abord individuelle, une politique des petits pas, mais là, c'est un des rares domaines sur lequel l'action collective, les manifestations, peut leur plaire. Alors que cette jeunesse, par rapport aux jeunesses que vous et moi avons vécues, et même la nôtre, cette jeunesse n'a pas connu des grandes victoires liées à des mobilisations collectives. Ils n'ont pas connu 86, loi anti-Devaquet, 95, les lois Juppé, 2006, le CPE. Donc, ils croient plutôt à l'action individuelle. Mais par rapport aux autres générations, il n'y a pas de guerre sur la question environnementale. Au contraire, la jeunesse se place un peu comme un Bonaparte au pont d'Arcole. Ils veulent entraîner les autres générations. Ils veulent être diffusionnistes sur les bonnes pratiques. C'est cette jeunesse qui a diffusé à l'ensemble des Français l'équation environnement égale climat, et non pas environnement égale petits oiseaux, qualité de l'air, etc.
Et on a l'impression qu'ils font, pour tenter de résoudre le problème, elles comptent davantage sur les GAFAM que sur l'accord de Paris, qui a pourtant été signé par 194 États et par l'Union européenne. J'ai l'impression que c'est là où ils sont plus pro-entreprise que pro-État.
Oui, alors même s'il y a quand même une certaine distinction, comme beaucoup de Français, mais eux la font maintenant de manière très très nette, ils sont sur une logique où ils valorisent la TPE de proximité, hein, ce n'est que 94% des boîtes en France, la PME, ils peuvent être très critiques vis-à-vis des grands groupes, et même parfois un discours repoussoir, mais ils font confiance quand même à ces grands groupes de par leur puissance pour faire avancer les choses, mais toujours, ils demandent des contreparties. Ils sont sur une logique de donnant-donnant avec ces entreprises.
Merci Frédéric Dabi d'être venu sur Europe 1 pour nous expliquer ce qui se trouve dans La Fracture, qui vient donc de paraître aux éditions Les Arènes. On se retrouve dans un instant avec Jean-Marie Guéhenneau, qui publie Le Premier 21e siècle, un livre qui donne des clés pour comprendre justement cette jeunesse que vous venez de nous décrire. Vous allez voir,
Écoutez.
Tout est là.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Jean-Marie Guéhenneau.
Bonjour.
Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies auprès de Kofi Annan. Vous enseignez à présent à la Columbia University et vous publiez chez Flammarion Le Premier 21e siècle. Nous sommes au tout début d'une ère nouvelle, dites-vous, et ce livre cherche à dresser la carte des océans inconnus que nous avons commencé d'explorer afin d'en éviter les écueils. Lourde tâche.
Beaucoup d'écueils, en effet. Beaucoup d'écueils, parce que les technologies nouvelles, ce sont des multiplicateurs de pouvoir et des multiplicateurs de risques. C'est les deux à la fois. Et comment on contrôle ces nouveaux pouvoirs? Comment on maîtrise les risques tout en les acceptant? Parce qu'une société qui refuse le risque n'est plus une société. Tout ça, ça fait beaucoup de difficultés.
Au fond, ça fait 20 ans déjà que nous sommes entrés dans le 21e siècle. On commence à savoir pas mal de choses.
D'abord, on sait que la planète a rapetissé. Enfin, ça, c'est une banalité de le dire. Mais que notre espace d'émotion, si je puis dire, ne s'est pas vraiment agrandi. Il y a un immense décalage entre les événements qui ont un impact sur nos vies et nos émotions. Ce décalage, on le voit en Afghanistan. Au fond, l'Afghanistan, ce qui vient de s'y passer, c'est un monde qui s'effondre pour un certain nombre d'Afghans. Pour nous, je dirais que c'est un détail. Mais on a prétendu que c'était autre chose. On a cru à la responsabilité de protéger, on a cru à l'engagement global, et on se rend compte aujourd'hui du décalage entre ces bons sentiments et la réalité de nos actions.
Vous dites également, Jean-Marie Guéhenno, qu'en 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé, mettant fin à la guerre froide, nous avons confondu la faillite du système soviétique avec le triomphe de la démocratie. Nous avons rêvé d'un monde qui allait devenir une grande famille, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. De la globalisation, au fond, nous sommes passés, dites-vous, à l'émiettement du monde.
Oui, je crois qu'en 1989, on a eu l'impression que l'individu roi allait pouvoir régner sur le monde et que chacun de nous avait de nouveaux pouvoirs, était libéré de l'oppression, pas seulement ceux qui avaient vécu dans le bloc communiste, et que maintenant nous donnait tous les pouvoirs. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on est noyé dans cette globalisation et que loin d'avoir tous les pouvoirs, on est écrasé par elle. Et du coup, on se replie sur soi-même, on a peur des autres, on s'enferme dans des tribus où chacun se ressemble, parce qu'on n'a plus le courage du dialogue et de la différence.
Nous faisons de moins en moins société, dites-vous. Ce sont les peurs qui nous rassemblent, pas les ambitions communes.
Je crois. Mon premier livre était sur la démocratie, mais je me suis rendu compte au fil des années, pour qu'il y ait une démocratie, il faut d'abord qu'il y ait une société. Il faut qu'il y ait un socle de sentiments communs. Il faut qu'il y ait un tissu qui est fragile et dont on découvre l'importance dans les pays justement où il s'est déchiré. Ça, c'est ce que j'ai appris quand je dirigeais le maintien de la paix aux Nations Unies. Je me suis rendu compte que beaucoup de pays, finalement, ont perdu ce lien. Et ma crainte aujourd'hui, c'est que nous parlons avec un peu d'arrogance des pays fragiles, comme si nous étions les pays mûrs et sûrs d'eux-mêmes. Mais en réalité, la fragilité, elle est partout, y compris en nous-mêmes. Et c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre.
Vous dites également que la digitalisation du monde sape la légitimité des structures politiques traditionnelles.
Oui, parce que chacun peut se définir comme expert. Il y a une sorte de, pour employer un mot un peu de jargon, il y a une sorte de désintermédiation. Les intermédiaires disparaissent. Et du coup, les institutions, qui par définition sont des intermédiaires, on s'en méfie. Chacun veut être roi, non pas seulement en son royaume, mais dans l'univers. Et ça ne marche pas. D'où la crise des institutions de toutes sortes, les institutions politiques, les institutions scientifiques. C'est l'ère de la méfiance aujourd'hui.
La démocratie était la garantie de la paix et de la prospérité. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imaginait. Et c'est plus du tout vrai. La puissance chinoise en est la démonstration. Ce n'est pas seulement l'exceptionnelle réussite matérielle de la Chine qui fascine, dites-vous. C'est aussi sa capacité à maintenir une certaine harmonie de la société. Celle qui nous manque ?
Oui, je crois que cette harmonie nous manque de plus en plus. On voit bien que pour des raisons commerciales, parce que la polarisation rapporte plus que l'harmonie, toute la logique de l'Internet est de créer des tribus qui se battent entre elles. La Chine, c'est une dictature. C'est une dictature redoutable. Mais c'est une dictature qui cherche de plus en plus à contrôler les esprits avant de les contraindre. Si je puis dire, c'est une dictature préventive. Et ça, c'est ça qui, moi, me fait très peur. C'est-à-dire que on pensait qu'une dictature, c'était simplement un policier qui vous surveillait. Mais si c'est un État qui manipule vos émotions, qui vous convainc que vous êtes heureux, qui définit le bonheur pour vous, alors là, je pense qu'on est dans les plus grands des dangers. Et c'est ce que je crains avec ce qu'on pourrait appeler le modèle chinois. Il est en construction. Aujourd'hui, la dictature chinoise, elle a encore beaucoup des traits traditionnels d'une dictature. Mais elle se perfectionne. Et c'est ce perfectionnement qui me fait peur, parce que c'est un perfectionnement qui, d'une certaine manière, peut séduire. Quand c'est Facebook, quand c'est Google qui manipule nos émotions, comme ce sont des acteurs commerciaux, finalement, on est très tolérant. On s'expose sur sa page Facebook sans se rendre compte que chaque like qu'on met sur cette page est une manière, non pas de se libérer, c'est pas un parlement mondial, ça définit les contours de notre prison, parce que ça permet de préciser le profil. Et c'est donc il y a une sorte de convergence entre la dictature contrôlée par un État, l'État chinois, et la dictature qui peut s'instaurer, la dictature plus soft, mais non moins redoutable, qui peut résulter du pouvoir énorme des nouvelles entreprises de données.
Et puis surtout, la dictature aujourd'hui peut apporter la prospérité, et ça c'est nouveau. On en parle juste après une pause, Jean-Marie Guéhenno.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Jean-Marie Guéhenno, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies du temps de Kofi Annan, qui publie Le premier 21e siècle aux éditions Flammarion. La prospérité, la dictature peut l'apporter aussi, on le voit avec la Chine, ça n'était pas le cas au 20e siècle. Vous dites qu'il va falloir sauver l'autorité sans créer la tyrannie, parce que c'est vrai, cette dictature, elle peut faire des émules.
Absolument. Et je crois que ça, c'est la grande différence entre la Chine et l'Union soviétique. Quand nous étions face à l'Union soviétique, on avait l'impression d'avoir le tiercé gagnant. On était à la fois plus libre, plus riche et plus pacifique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut être tout aussi riche en étant moins libre. Et ça, je pense que ça peut faire des émules. On voit bien qu'il y a un attrait de la Chine, notamment dans les pays en développement. Et je crains qu'un jour ça fasse des émules chez nous, si nous sommes en quelque sorte fatigués de nos querelles, si on se rend compte que le monde dans lequel nous vivons, de bataille permanente, est un monde un peu dysfonctionnel.
Jean-Marie Guéhenno, vous dites également que la peur du terrorisme hante nos sociétés d'une façon inédite. Il met en scène, dites-vous, notre précarité.
Oui, le terrorisme, enfin c'est terrible d'en parler au moment où on parle du Bataclan, on voit l'immense tragédie humaine que ça a été pour les victimes du Bataclan, mais en même temps, au niveau géopolitique, si on ne mesurait le terrorisme qu'à l'impact direct qu'il a, ça n'est presque rien par rapport à des guerres.
En tout cas chez nous.
En tout cas chez nous. Mais ce qui fait le terrorisme comme acte stratégique, ce sont les répercussions immenses qu'il a grâce à la connectivité du monde. Un acte terroriste se répercute aujourd'hui dans le monde entier et dans tous les esprits. Et dans nos sociétés d'individus un peu, au fond, esseulés, chacun face à soi-même, nous pensons d'abord à notre vie, nous ne pensons pas à la société. Et donc le terrorisme, dans son aveuglement, est particulièrement terrifiant. Le terrorisme devrait être moins terrifiant que n'était la menace de l'Holocauste nucléaire pendant la guerre froide. Mais en réalité, aujourd'hui, je crois qu'on pense plus au terrorisme qu'on ne pensait à la guerre nucléaire pendant la guerre froide, alors que le risque est d'une certaine manière bien inférieur.
La vie est la seule valeur absolue qui subsiste chez nous, dites-vous.
Bien sûr, la vie est une valeur fondamentale, mais une société doit avoir d'autres valeurs. Et il y a des valeurs pour lesquelles il faut être prêt à mourir. Je crois que quand on a applaudi les soignants au début de la crise du Covid, au fond, ce qu'on aimait en eux aussi, c'était des gens qui donnaient un sens à leur vie. On leur était reconnaissant de sauver la nôtre, bien sûr, mais on était aussi admiratif et presque envieux de personnes dont la vie n'était pas seulement leur vie, était une vie qui était tournée vers les autres. Et je crois qu'il y a ce besoin de collectif, de dépasser sa solitude individuelle aujourd'hui qui est de plus en plus fort.
L'épidémie de Covid, je pense que vous aviez écrit une bonne partie de votre livre avant même qu'elle n'éclate. Elle est venue confirmer ?
Totalement, parce que l'épidémie du Covid, on voit bien d'abord qu'elle renforce en chaque individu la peur de l'autre. On garde la personne en face de vous, on se demande est-ce qu'elle est vaccinée, est-ce qu'elle va me contaminer. Et donc chacun est replié dans sa petite bulle de sécurité. Et ça, c'est typique de ces sociétés hyper individualistes d'aujourd'hui. Mais en même temps, l'épidémie de Covid, on sait bien qu'on ne la vaincra que par un effort collectif. Et donc c'est vraiment les deux bouts de la chaîne qu'on tient avec le Covid.
On veut le risque zéro aujourd'hui.
Et ça, c'est impossible. Et c'est le signe justement d'une société qui ne fonctionne pas. Parce que le risque zéro, c'est le fait que justement on met sa vie personnelle avant toute autre chose. Et une société, c'est un groupe d'êtres humains qui feront le maximum pour sauver la vie de tous, mais qui comprennent qu'il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus grand que chacun, qui est un certain nombre de valeurs qui inspire cette société.
Alors le grand unificateur pour vous, le grand unificateur du monde, ce monde qui a tendance à s'émietter, c'est l'argent. L'unité de compte du bonheur, c'est l'argent. C'est au fond le seul langage commun.
Oui, l'idéologie du marché, au fond, a été le grand égalisateur. Et aujourd'hui, l'idéologie qui domine, c'est l'idéologie du succès et du succès mesuré par l'argent. Et ça, je crois que c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il y a une revendication de plus en plus forte de dignité humaine, parce que l'argent...
D'égalité aussi.
D'égalité aussi, de reconnaissance de la diversité, qu'il y a d'autres manières d'être que simplement de gagner de l'argent, qu'il y a une dignité humaine, qu'il n'y a pas les premiers et les derniers, qu'il y a différents ordres de la vie, qu'on peut être... Oui, on peut être un grand homme d'affaires, il n'y a rien de mal à cela, on peut être aussi un grand intellectuel, c'est très bien, on peut être un soldat, et c'est très bien, mais il y a différents ordres, et chacun, au fond... à son système de valeurs, et une société qui fonctionne, c'est une société qui reconnaît qu'il y a plusieurs systèmes de valeurs et qu'il n'y a pas une valeur unique qui ramène tout à un seul étalon qui est celui de l'argent. Et je pense que le mot qu'on emploie beaucoup, ces temps-ci, le mot d'élite, il traduit justement cette réduction de la société à un seul ordre. Parce que les élites, ça ne veut rien dire. On peut être un grand savant, ça n'a rien à voir avec un grand homme d'affaires ou avec un grand général. Ou avec une personne très charitable. Les élites, ça ramène tout le monde dans ce sac, au fond, des gens visibles par rapport à tous les invisibles. Et c'est ça qui est inacceptable, parce que je pense que les invisibles, chaque invisible, a sa dignité. Et que le système politique qui sera capable de reconnaître cela sera le système de l'avenir.
Au fond, c'est la possibilité même d'un universalisme qui est aujourd'hui en jeu. Il n'y a plus d'universel comme on a pu penser qu'il y en aurait un autrefois. Il n'y a plus que le marché.
Il n'y a plus que le marché. Et je pense que ça, ça écrase ceux qui sont au bas de la pile. Parce que finalement, c'est la double peine. Quand vous êtes pauvre, vous avez tous les inconvénients de la pauvreté, mais en plus, vous êtes en quelque sorte indigne. C'est monstrueux, mais c'est ça l'esprit de notre société aujourd'hui.
Et nous sommes, dites-vous, de plus en plus assoiffés de particuliers. Nous voulons des différences, des communautés, des groupes, des disciplines imposées.
Oui, parce que je pense que cet universel sans universalisme, ce monde où, au fond, il n'y a plus de limites, où on sent que quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres de chez vous va impacter votre vie, il est insaisissable et il fait très peur. Et on a besoin de limites, on a besoin de la frontière, on a besoin de se sentir dans un espace qu'on maîtrise. D'où des réponses qui, à mon avis, sont très dangereuses, du nationalisme, de la xénophobie, enfin toutes choses que personnellement je déteste, mais qui s'expliquent par cette espèce de... on est de noyade dans un universel qu'on ne maîtrise plus.
Merci Jean-Marie Guéhenault. Je rappelle le titre de votre livre, Le premier 21e siècle, ça vient de paraître chez Flammarion.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme, Pierre ?
Eh bien, avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, on évoquera bien sûr la crise des sous-marins, d'autant que le dernier chapitre, vous l'avez suivi ce matin, Frédéric, c'est le rappel des ambassadeurs de Washington et d'Australie. Ça veut quand même dire que c'est pas simple comme histoire. Éric Zemmour, candidat au débat, c'est ce qui ressort de son meeting à Toulon. On va voir comment est-ce qu'il impacte les autres candidats, et puis nous reviendrons sur les conclusions du Beauvau de la sécurité.
Bonne émission.
Merci.